France Culture.
Le journal, Héloïse Weiss.
En Iran, l'attaque israélienne contre la prison d'Evin à Téhéran a fait 71 morts. C'est le porte-parole du pouvoir judiciaire iranien qui l'indique ce matin. 37 degrés à Montpellier, 37 à Lisbonne et même 40 à Rome. Le sud de l'Europe connaît une intense vague de chaleur. Nous serons à Rome. Le changement climatique qui s'observe aussi en Savoie où un lac glaciaire menace un village. L'actualité, c'est aussi la fin de la cigarette sur la plage, dans les parcs ou sous les abribus. Mais comment faire respecter ces espaces sans tabac? Décryptage tout à l'heure. Et puis l'ouverture à la concurrence des trains dans les régions se concrétise avec l'exploitation de la ligne Marseille-Nice par un groupe privé franco-allemand. Mais que peut changer cette ouverture à la concurrence dans l'offre ferroviaire? Pour en parler, l'invité du journal de la rédaction est Patricia Pérennes, économiste spécialiste du transport ferroviaire pour le cabinet Transmission. Au sixième jour du cessez-le-feu entre Iran et Israël, les autorités iraniennes ont donné ce matin le bilan du bombardement de la prison d'Evin par l'armée israélienne en début de semaine. 71 personnes sont donc mortes selon le porte-parole du pouvoir judiciaire iranien. Les victimes sont essentiellement des employés et des détenus de la prison Valérie Krova.
Elle représente l'un des symboles de la répression du régime iranien et c'est à ce titre qu'elle a été visée par Israël. C'est dans cette prison que sont regroupés les opposants arrêtés au fil des ans, ainsi que des prisonniers étrangers. C'est aussi à Evin que les deux Français Cécile Kohler et Jacques Paris étaient incarcérés. Jusqu'à la frappe de lundi qui a ciblé le centre de santé et le parloir de la prison, affirme le pouvoir judiciaire iranien. Parmi les victimes figuraient des détenus et des membres de leur famille venus leur rendre visite. Les deux Français enfermés depuis 3 ans dans la section 209 de la prison, contrôlée par le ministère du renseignement iranien, n'aurait pas été touchée, selon le ministre français des Affaires étrangères. L'emploi du conditionnel n'a pas rassuré leurs proches. Ils exigent que leur soient fournies au plus vite des preuves de vie et qu'on leur dise dans quelle prison Cécile et Jacques ont été transférés. Après la frappe israélienne, la plupart des détenus d'Evin ont été déplacés vers d'autres établissements pénitentiaires, mais où les autorités iraniennes ont jusqu'à présent gardé le silence.
Et après les bombardements américains sur les sites nucléaires iraniens, les questions demeurent sur l'efficacité de ces frappes. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, indique que l'Iran dispose des capacités techniques pour recommencer à enrichir de l'uranium d'ici quelques mois. Jair Bolsonaro appelle ses partisans à manifester aujourd'hui à Sao Paulo pour le soutenir. L'ex-président brésilien est en procès et menacé de prison pour tentative présumée de coup d'État. À la mi-juin, en audition devant les juges, le leader d'extrême droite avouait avoir cherché des alternatives pour rester à la tête du pays après la réélection de Lula en 2022. C'est bien toute l'Europe du Sud qui suffoque en ce moment sous un dôme de chaleur et en particulier en Italie. 21 villes sont aujourd'hui en alerte rouge, de Bolzano tout au nord à Palerme en Sicile. Et parmi les villes les plus touchées, Rome, 40 degrés sont attendus. Il faisait 38 degrés hier. Le ministre de la Santé italien recommande d'éviter les activités physiques et de ne pas s'exposer au soleil entre 11h et 18h. Mais les touristes venus du monde entier ne sont pas prêts à abandonner leur visite à Rome. Bruno Duvic.
Le Colisée, 35 000 visiteurs par jour et peu d'ombre à la mi-journée. Philippe a 2 brumisateurs.
Je vais vous en mettre un petit coup. On va être dehors toute la journée. C'est cet après-midi quand on va aller au forum, on va se faire un peu.
Sur la route du forum, justement, Jérôme, dans un cloître, Rome est la ville aux plus de 900 églises.
On vient chercher le frais en rentrant dans toutes les basiliques qu'on peut trouver sur notre chemin.
À la sortie, Adriane, secouriste de garde, jusqu'ici tout va bien.
Depuis ce matin, 2 personnes seulement. Tant mieux. On prend leurs paramètres vitaux, on les met au frais et si nécessaire, on appelle une ambulance.
En Italie, les appels au SAMU ont tout de même augmenté de 4% en une semaine. L'association écologiste Legambiente fait le tour des banlieues sans espace vert, aux bâtiments mal isolés, pour dénoncer la cooling poverty. Giorgio Zampetti est le directeur général.
La cooling poverty est une expression pour décrire la situation de ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir l'air conditionné ou vivent dans des quartiers pauvres, sans structure pour affronter les vagues de chaleur.
Les prévisions prévisionnistes ne donnent pas de date pour le reflux de la vague de chaleur.
Le reportage de Bruno Duvic pour France Culture. De son côté, le Royaume-Uni pourrait connaître sa journée la plus chaude de l'année demain avec une température de 35 degrés à Londres. En France, 73 départements sont placés en vigilance orange canicule pour la journée d'aujourd'hui et de demain. Autre conséquence du changement climatique, la fonte des glaciers. Un lac glaciaire récemment formé menace de se déverser sur le visage de Pralognan-la-Vanoise en Savoie. Les autorités ont préféré prendre les devants et écarter tout risque d'une crue torrentielle, Mathieu Laurent.
Point d'épisode pluvieux d'envergure sur un manteau neigeux très épais comme à la Bérarde. Pas d'éboulement rocheux suivi d'une avalanche de glace comme à Blatène. Mais en ces temps de retrait glaciaire, un lac comme il s'en forme de plus en plus, celui en l'occurrence du Grand Marchais, d'une superficie d'un hectare, pour un volume d'eau compris entre 50 et 70 000 mètres cubes. Deux hypothèses, après des études bouclées à l'automne dernier, une vidange lente dans 2 ou 3 ans, au rythme de la fonte, ou bien une vidange soudaine en passant sous le glacier par des failles non identifiées, vidange imprévisible et surtout en direction de la commune de Pralognan, d'où l'intervention qui se prépare. David Binet, directeur pour les Alpes du Nord d'une agence spécialisée dans les risques naturels en montagne, à l'Office national des forêts.
Le but de ces travaux consiste à creuser une tranchée dans la glace pour que finalement les eaux qui aujourd'hui se dirigent en direction d'une vallée, finalement se dirigeront en direction d'une autre vallée, avec finalement un écoulement, une vidange qui sera maîtrisée.
4 ouvriers techniciens seront à pied d'œuvre à près de 3000 mètres d'altitude jusqu'à la mi-août, équipés de 3 pelleteuses acheminées en pièces détachées par hélicoptère au bord du lac du Grand Marchais, en Vanoise. De tels travaux ont été menés au pied du glacier des Bossons, près de Chamonix, en 2023, ou encore la même année, sur le lac de Rosolin, à Tignes.
Midi 37 sur France Culture et c'est officiel, fumée sur les plages, dans un parc, sous un abribus ou devant un lycée est désormais interdit depuis ce matin partout en France. Les abords des bibliothèques et des complexes sportifs sont aussi concernés. En clair, tous les lieux fréquentés par les enfants. Le périmètre d'application doit encore être précisé, indique la ministre de la Santé Catherine Vautrin. Mais le non-respect de cette interdiction sera puni d'une amende de 135 €. Jeanne Serrin, ce nouveau décret publié hier s'applique donc dès aujourd'hui, mais comment faire pour respecter ces espaces sans tabac ?
Eh bien, il faut se tourner vers les 7000 espaces de ce genre qui existent déjà dans près de 1600 communes. À Nice, par exemple, 2012, c'est la première plage sans tabac avant une généralisation en 2024. Bilan, l'année dernière, seulement 14 verbalisations. Richard Chemla, délégué à la transition écologique de la ville.
Pour faire passer cette mesure, il y a eu une grosse opération d'information avec des ambassadeurs qui, dans un premier temps, se sont promenés sur les plages. Je pense qu'on peut arriver aujourd'hui en expliquant. Et si on accompagne aussi, parce qu'il y a des possibilités donc d'ateliers sans tabac, ça peut passer mieux que si on passe immédiatement à une mesure de répression.
La ville de Nancy, elle aussi, a pris son temps, 5 ans, pour mettre en place cette interdiction, aujourd'hui bien respectée, d'après Marc Tenenbaum, élu en charge de la santé.
Je crois que ce qui est très important, c'est le temps de préparation que nous avons pris. On fait des formations dans les collectivités, dans les écoles. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que ce ne soit qu'une coercition. Il faut vraiment accompagner la prise de conscience des gens.
Installer des panneaux d'information, former les agents municipaux et la police, associer les habitants. Autant de projets à construire en fonction des réalités locales. Yannick Nadessan, adjoint à la mairie de Rennes, regrette donc l'arrivée rapide de ce nouveau décret.
On sait qu'en matière de santé publique, ce qui compte, c'est la compréhension des messages. Or là, quel moyen on a d'appliquer une mesure qui est une mesure administrative, si ce n'est que de rentrer dans une forme de morale.
La ville de Rennes envisage donc une expérimentation à la rentrée prochaine dans plusieurs établissements scolaires de la ville avant une généralisation, mais pas avant plusieurs mois.
Un décryptage de Jeanne Serrin pour France Culture. Le premier train est parti ce matin de Marseille à 5h57 de la gare Saint-Charles. Le groupe franco-allemand Transdev vient de lancer l'exploitation de la ligne Marseille-Toulon-Nice, première liaison régionale ouverte à la concurrence. Transdev promet 14 allers-retours par jour, soit un doublement de l'offre actuelle de la SNCF. Alors, est-ce une nouvelle ère ferroviaire qui s'ouvre avec cette ouverture à la concurrence ou bien est-ce seulement un symbole ? Pour en parler, Patricia Pérennes est l'invitée du journal de Midi 30. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste spécialiste du transport ferroviaire pour le cabinet Transmission. Alors, on l'a entendu, il y aura plus de TER sur cette ligne Marseille-Toulon-Nice. La SNCF n'était pas capable de proposer une telle offre jusqu'ici ?
Alors, c'est à la fois SNCF qui ne proposait pas, mais aussi la région qui ne demandait pas. Là, pour que Transdev arrive, il y a eu ce qu'on appelle un appel d'offres. Et c'est la région qui, dans son cahier des charges, avait fixé ce doublement de l'offre.
Et comment on explique alors cette ouverture à la concurrence ? Il y a un besoin de plus de trains, justement ?
Alors, c'est d'abord une obligation européenne. Il faut savoir que toutes les régions vont mettre en concurrence là, depuis cette année jusqu'en 2033, donc c'est un processus assez long, leurs lignes. Et effectivement, l'ouverture à la concurrence pour certaines régions, c'est l'occasion d'augmenter l'offre. Et donc là, on parle d'un doublement de l'offre. En tout cas, voilà, Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est le choix qu'ils ont fait de doubler l'offre sur cette ligne.
Et quelle est la promesse, quelles sont les autres promesses de cette ouverture à la concurrence ?
Alors déjà, la promesse, c'est que pour les voyageurs, ça va faire que du plus, donc plus de trains. Et en revanche, il n'y aura pas du tout d'impact sur les prix, sur les tarifs. Ça, c'est très important que les auditeurs comprennent. En fait, aujourd'hui, le prix, il est fixé par la région. Et le fait que ce soit Transdev ou hier, c'était SNCF, ça ne changera rien. Donc la promesse, c'est plus de trains. Et pour le voyageur, pas de modification du tarif.
Mais cette ouverture, elle est aussi critiquée. Pourquoi ? Quels sont les risques ?
Il y a des gens qui la critiquent parce que c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau dans le secteur ferroviaire. C'est quelque chose qui existe dans d'autres secteurs. Il y a des appels d'offres régulièrement pour le transport scolaire, pour la distribution d'eau, pour le ramassage des poubelles. Mais effectivement, dans le transport ferroviaire, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Et du coup, voilà, il y a cette critique en se disant, est-ce qu'on va pas passer d'un système qui est pas parfait, on va tous se le dire, aujourd'hui, les lignes qui sont exercées par SNCF, il y a des défauts, à un système où, est-ce que le nouvel opérateur sera aussi bon que SNCF ? Est-ce qu'il y aura pas des incertitudes ? Voilà, c'est ça les critiques.
Incertitude aussi sur les prix ou pas ?
Non, alors sur les prix, vraiment, il faut différencier les TGV qui vont par exemple à Marseille, avec le Paris-Marseille, des TER, où le TER, c'est vraiment comme le ticket de métro. Le ticket de métro, on sait tous que c'est Valérie Pécresse et donc les élus d'Île-de-France qui décident leur prix. Et c'est exactement pareil pour les TER. Transdev n'a aucune influence sur les prix. D'ailleurs, SNCF non plus. C'est vraiment la région qui décide. Et donc, il y aura pas d'impact là-dessus.
On sait qu'un certain nombre de présidents de présidents de région sont aussi contre cette ouverture à la concurrence. Y a-t-il une égalité, une réelle égalité dans les appels d'offres entre concurrents privés et publics ?
En fait, il y a quand même le sortant, donc SNCF, celui qui était là avant, qui a un petit gain parce qu'il connaît mieux le territoire, il connaît les lignes, il les exploite. Donc, il y a un petit avantage pour SNCF, mais les régions font tout pour que les concurrents soient mis sur un pied d'égalité. Et chez les concurrents, il y a cette envie en fait de montrer qu'ils sont capables aussi. Donc, je pense que globalement, ça s'équilibre et que du coup, on trouve dans les régions, SNCF a gagné beaucoup d'appels d'offres qui roulent déjà en Hauts-de-France, en Pays de la Loire, ou du côté de Nice également. Voilà, la Transdev a gagné à ce jour 2 appels d'offres. Donc SNCF en gagne, Transdev en gagne, et peut-être que demain, il y aura d'autres concurrents, Trenitalia ou la Renfe, qui sont des entreprises italiennes et espagnoles, qui seront amenées à gagner des appels d'offres.
Est-ce que les réseaux ferrés seront aussi bien entretenus que les réseaux par la SNCF ?
Alors, faut déjà différencier parce que le rail, quand vous dites le réseau, si vous désignez le rail et puis la caténaire, là, les fils électriques qui passent dessus, ça, c'est toujours SNCF Réseau. Donc, c'est pas la même entreprise qui les gère. Là, la mise en concurrence, on ne parle que du train. Donc, si vous demandez si les rails seront mieux entretenus ou moins bien entretenus, en fait, ça change rien. Là, pour le coup, il n'y a pas eu de changement les rails entre Marseille et Nice sont toujours entretenus et le seront pour la suite par SNCF Réseau. Donc, ça n'a pas changé.
Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Patricia Pérennes, économiste spécialiste du transport ferroviaire pour le cabinet Transmission. Merci à Aline Biette pour la préparation de cet entretien. Démobilisation partout en France, comme à Paris et Bordeaux cet après-midi contre la loi Duplon à l'appel du collectif Nourrir. La loi Duplon qui veut lever plusieurs contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur sera examinée dès demain par 7 députés et 7 sénateurs en commission mixte paritaire. La météo cet après-midi, je rappelle que 73 départements sont placés en vigilance orange pour canicule dans la journée d'aujourd'hui et demain. Cet après-midi, le thermomètre reste sous la barre des 30 degrés sur les côtes de la Manche. Ailleurs, la chaleur s'intensifie. Prévoyez 30 à 35 degrés du sud de la Bretagne au Pays de la Loire en passant par l'Île-de-France. Plus au sud, on attend 36 degrés en général. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé avec Antoine Boucher. Élise Le était à la technique. Tout de suite, c'est Signe des temps avec Marc Wetzmann.